بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شفان إسلام la semaine dernière on avait parcouru les versets 25 à jusqu'à peu près 32 ou 33 où Allah Rabbul Izzah a rappelé à l'être humain la perfection de la création. Il y avait pas mal de versets. À partir du verset 27, il y avait le 28, 29, 30 qui parlaient de la création des cieux, la création de la terre, le fonctionnement de ce monde, la chaîne alimentaire, la façon qu'Allah Rabbul Izzah a fait émerger de l'eau. Et on sait que l'eau est à la base de la création. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie possible. On avait donc vu ces versets en rapport avec la création d'Allah Azza wa Jal qui ont pour but de faire réfléchir l'homme, que l'homme prenne conscience que celui qui est capable de tout créer à partir du néant, Al-Adam, de rien du tout, est certainement capable de redonner vie après qu'il les ait créés une première fois. Donc c'est en même temps les personnes, les mouchriquins de Quraysh, les polythéistes qui n'acceptaient pas la résurrection parce qu'ils se basaient uniquement sur la logique. Aïda mitna, comment est-ce possible quand on est mort, wa kunna turaban wa idama, et qu'on revienne poussière, ou qu'on revienne poussière, comment est-ce possible, comment pouvez-vous croire et prétendre que votre Dieu nous redonnera vie? Selon les Quraysh, ceux qui n'avaient pas la foi, c'était quelque chose d'impossible. Allah Rabbul Izzah va faire raisonner à partir de la logique. Vous êtes d'accord que celui qui vous a créé, c'est Allah. Là, ils étaient d'accord. Lorsqu'on leur demandait « Amman khalaqa as-samawati wal-ard » ou d'autres versets « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulun Allah » Lorsqu'on leur posait la question « Qui a créé les cieux et la terre ? Qui vous a donné la vie ?» Ils étaient unanimes, c'est Allah. Mais ensuite, ils se déviaient. Ils adoraient Allah, mais ils adoraient Allat wal Uzza wa Manat. Ils adoraient d'autres avec Allah Azza wa Jal. Et ils n'acceptaient pas qu'après la mort, il y ait une résurrection. Donc, il y avait une pratique de la religion traditionnelle. C'était un héritage des parents et des grands-parents. Les Arabes croyaient tous en Allah. Même ceux qui adoraient Allat wal Uzza, ceux qui adoraient les idoles, ils croyaient en Allah à la base. Ensuite, le problème venait des waswasa de shaitan, des insufflations du diable, venait également du jahl, de l'ignorance, et ils n'avaient pas fait, subhanallah, notre dîn est basé sur, pour dire, une certaine logique. Cette logique, c'est la relation entre l'unicité d'Allah dans la création et l'unicité d'Allah dans le culte, qu'on appelle al-rububiyya et al-uluhiyya. Al-uluhiyya, c'est adorer celui qui a tout créé. Si on accepte qu'Allah a créé l'intégralité de Al-Alamin, tout ce qui existe, pourquoi est-ce qu'on va vouer le culte à celui qui n'a pas créé? Vous voyez l'exercice de, j'aime pas trop utiliser le mot logique, mais l'exercice de cohérence. Le Coran nous appelle vers une pratique cohérente. Celui qui a créé, tu l'adores. Pourquoi adorer une pierre qui ne peut t'apporter rien, qui ne peut même pas exaucer tes droits, tes invocations? Vous voyez, quand certaines personnes disent que la religion, l'islam, ce n'est pas la logique, ben, certes, c'est al-ghaib, c'est l'invisible, mais il y a un cheminement tout à fait cohérent. Et il n'y a rien que nous pratiquons qui dépasse l'entendement. Il y en a qui dépassent l'entendement, mais il n'y a rien qui contredit le bon sens ou la cohérence. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal rappelle qu'il a créé les cieux et la terre et les versets qu'on a cités? Donc, la dernière fois de 27 à 33, donc il y a, mashallah, pas mal de versets, c'est pour que l'être humain, que ce soit les Quraysh à cette époque ou n'importe quelle personne, se souvienne et prenne conscience que derrière toutes ces créatures, il y a un Khaliq, il y a un créateur. Et lorsqu'on arrive à ce cheminement, celui qui a tout créé, c'est Allah, lui seul mérite d'être adoré, on arrive également au cheminement que celui qui a tout créé, sans le moindre doute, il est parfait. à lui reviennent les noms sublimes et al-asma wa sifat, et les meilleurs des attributs qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Hada. Juste après donc ces versets, on parle de la création des cieux et de la terre. Il y a le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 34, qu'on va essayer de commenter aujourd'hui, inshallah, le 34 à 40 ou 41, si on a le temps, inshallah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Après qu'Allah Azza wa Jal ait rappelé donc comment est-ce qu'a créé les cieux, la terre, comment est-ce que l'eau est arrivée sur la terre, comment est-ce que l'eau est vitale, que même الْأَنْعَامُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِي أَنْعَامِكُمْ. Ce qu'il y a comme culture, les arbres fruitiers, c'est pour vous, mais également les bêtes. Et si les animaux ne mangent pas, si les animaux, que ce soit les bœufs, les cabris, quel que soit l'animal, s'ils ne trouvent pas de quoi manger, boire, comment est-ce que nous on va manger de la viande? Donc c'est un cycle qu'Allah Rabbul Izza a instauré, c'est la sunnatullah. Donc Allah rappelle tout ça, et ensuite il y a le verset qui rappelle, ben, un jour tout ce que tu vois, tout ce que nous voyons, nous constatons, sera détruit. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. On est au verset 34, puis quand viendra le grand cataclysme. Et je pense qu'on avait un petit peu expliqué At-Tamatul Kubra. Pourquoi est-ce qu'on appelle At-Tamatul Kubra? Parce que lorsqu'Allah Rabbul Izzah ordonne à l'ange Israfil alayhi salam de souffler dans la corne, tout ce qui existe sera détruit. Et les savants, les mufassirin rahimahumullah, disent que autant le mu'min doit prendre conscience de la puissance de son créateur en admirant la création. Ça, c'est un point sur lequel on a maintes et maintes fois insisté, en voyant la création des cieux, de la terre, de la variété de l'espèce humaine, ou subhanallah, on se rend, de l'espace animal, végétal, on réalise la puissance de notre créateur. En méditant également sur la façon dont nous avons été créés, sur la richesse qu'il y a dans une goutte de sang, la richesse, le nombre de globules rouges, de globules blancs, de vitamines, de subhanallah, de magnésium, de calcium, dans une seule goutte. On dit qui c'est qui a créé tout ça, c'est Allah Rabbul Izza. Autant nous devons avoir cette foi, cette conviction et être admiratifs de la puissance de notre Seigneur qui a tout créé, autant nous devons prendre conscience qu'Allah est puissant, tellement puissant qu'il est capable de tout détruire, anéantir en une fraction de seconde. Lorsqu'il ordonne à l'ange Israfil de souffler, Allah Rabbul Izzah prend la décision que l'intégralité de la création sera détruite. Autant que la création s'approuve la supériorité, la puissance de notre Seigneur, autant la destruction est une preuve de la puissance de notre Seigneur. Dans les deux sens. Voyez un bâtiment. Pas besoin d'être architecte ou autre chose. Vous savez que construire un bâtiment, ça prend du temps, sans le moindre doute. Mais détruire un bâtiment, ça prend énormément de temps. Quand vous voyez les travaux qu'il y a à Makkah, à Madina, parfois il y a des hôtels, c'est des palaces de 30, 40 étages, et subhanallah, ça fait un pâté de maison. Et vous pensez qu'on peut casser ça en deux secondes? Combien de temps ils prennent pour casser? D'abord, faire en sorte qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, rien qui va blesser, rien qui va exploser, ainsi de suite. Ensuite, il faut repérer les fondations. Il ne suffit pas de mettre de la dynamite n'importe où. Il faut repérer les, comment on appelle ça, les poutres, hein, les murs porteurs, ainsi de suite. C'est tout un travail d'architecte. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la destruction de bâtiments pour reconstruire ou peu importe pour quelle raison. Et ça prend énormément de temps avant qu'ils font descendre un bâtiment. Ça, c'est une construction. Maintenant, on parle de l'univers, le dunya, la planète Terre. Vous voyez, subhanallah, le nombre de planètes qui existent. Al-alamin, toute la création sera détruite par l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. Et l'intégralité des makhlouqat, des créatures. Plus une seule âme, plus un ruh, que ce soit humain ou djinn ou autre. Il restera que l'iman al-mulkuliyam lillahi al-wahid al-qahhar. Le pouvoir reviendra à Allah Azza wa Jal, comme au début lorsqu'il n'y avait aucune création, il n'y avait que le Al-Khaliq, que le Créateur. Donc lorsque ce moment fatidique va venir, et ce moment-là, on verra dans d'autres versets, ce moment-là, il n'est connu que de notre Seigneur, uniquement par Allah Azza wa Jal. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la présentation de la création des cieux et de la terre, juste après le rappel qu'un jour, tout ce que vous voyez, que vous constatez, sera détruit. Et le verset suivant, le verset donc 35, rappelle, c'est un rappel, plutôt attire notre attention sur le fait que une nouvelle vie va commencer. Après la destruction de cette vie, At-Tamatul Kubra, il y aura une nouvelle vie, Al-Mahshar, la résurrection. Et ce qui est spécifique à cette résurrection, c'est que l'homme, lorsqu'il sera ressuscité, va prendre conscience de l'intégralité de son parcours depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Chose qui est impossible pour un être humain maintenant. On peut avoir une excellente mémoire. Il nous arrive d'avoir quelques souvenirs de notre enfance. Vraiment, si on remonte, on remonte, ça peut être un ou deux souvenirs de l'âge de 4 ans, 5 ans, mais à un moment donné, ça s'efface. Et la mémoire, elle est sélective. Elle garde uniquement certains souvenirs, pas tout. Mais le jour de Qiyama, yawma yatadhakkaru l'insanu ma sa'a, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. Et comment est-ce que l'homme va se rappeler de l'intégralité de sa vie, Issa? De quelle façon? La chair. ونخرج له يوم القيامة شيخ علي سفي بليزير دو فوار ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Lorsque les livrets d'action seront remis à chaque personne ressuscitée, quand on parle de livret d'action, c'est un livret, j'allais dire, impitoyable. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. C'est un livret impitoyable. Parce qu'Allah Rabbul Izzah demandait aux anges d'être impitoyables dans l'inscription des actions. Que ce livre ne délaisse ni une petite ni une grande action sans l'inscrire. N'importe quelle. Ça peut être une parole qui nous paraît sans intérêt. Un petit ribat. Je n'ai pas fait un grand ribat. Ce n'était pas une grande médisance. C'était une mini médisance. J'ai juste dit un petit truc déplacé sur mon frère en islam. Même ça, les anges ont écrit. Parce que ce qui est haram, qu'il soit en infime quantité ou en grande quantité, les anges ont reçu l'ordre de la part d'Allah Azza wa Jal de l'inscrire, de le livrer, le livret d'action. C'est lorsque les livrets seront remis à chaque personne, et que les livrets, on l'avait vu dans les autres versets, soit on les reçoit de la main droite, et ça, Inch'Allah, ce sera, fait dua que ce sera notre situation, le jour de Qiyama, les croyants vont recevoir, Inch'Allah, le livret de la main droite, alors que ceux qui n'avaient pas la foi, ou ils ont perdurer dans la désobéissance d'Allah, ils vont le recevoir à main gauche derrière le dos, et ce sera la plus grande des humiliations, qu'Allah nous protège de cette situation. À l'heure où on parle, Wallahi, Wallahi l'Azim, personne n'est capable de dire avec assurance que moi, le jour du Qiyam, je vais recevoir mon livret de compte de la main droite, et j'en serai fier. Personne n'est capable. Tout comme personne ne peut dire que moi je vais mourir croyant, c'est sûr, abadan. Personne ne peut avoir cette garantie. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, demandaient à Allah Rabbul Izzah l'istiqama, la fermeté, et ils avaient cette crainte de perdre ce qu'Allah leur avait donné. Une fois, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'était un grand commerçant, une personne vient lui rendre une marchandise. Une personne lui rend une marchandise. Abu Bakr al-Siddiq se met à pleurer. Et le sahaba qui lui pose la question, Abu Bakr al-Siddiq, ce n'est qu'une transaction commerciale, il t'a rendu, mais ne comprends pas la réaction d'Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr dit, je ne pleure pas pour ce coupon de tissu ou cet article-là, wallah. Je pleure parce que cette personne était satisfaite de ce produit hier. Aujourd'hui, il ne le veut plus, il le rend. Imaginez qu'Allah était satisfait de moi hier et qu'à un moment donné, il n'est plus satisfait de moi et qu'il me renvoie. Qu'il m'exclut du haqq, de la vérité, qu'il m'exclut du sentier des gens qui sont dans le droit chemin. Quelle serait ma situation? Ça, c'était iman et sahab. Malgré le parcours qu'ils avaient fait, malgré la profondeur et la solidité de leur foi, malgré l'intensité de leurs bonnes actions, ils avaient la pire des choses pour eux, ce serait de rétrograder dans la religion, de perdre des acquis, ou pire encore, de perdre la foi. Et c'était le doua qui leur importait le plus. Et dans sa grande clémence, Allah nous a donné un doua que nous lisons dans chaque Al-Fatiha, c'est « Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin ». Ça, c'est un doua magnifique que, heureusement, il a été révélé dans Al-Fatiha, autrement, je ne sais pas si on aurait l'occasion de le lire souvent, mais en lisant Al-Fatiha, on peut le lire au moins 15 ou 20 fois par jour. Et c'est là le plus grand souhait. C'est le doua que nous faisons le plus souvent dans une même journée, parce que c'est l'objectif principal du croyant, mourir, rencontrer Allah avec la foi. Et pour cela, personne n'a de garantie. Pour ça, me dit le hadith, en ce sens, c'est rapporté qu'il y a des gens qui, durant toute leur vie, font des actions, des gens du paradis, mais avant de mourir, ils vont faire des erreurs graves. Ils vont faire des péchés, des gens de l'enfer, et ils meurent dans cette situation, et ils iront au jahannam, nasallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui ont fait le hajj, qui ont fait l'umrah, qui ont lu le Coran, qui ont prié à côté de nous, mais quand ils meurent sans la foi. Ce sont des situations réelles que le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncées. Chers frères, le passage dans le monde de l'invisible, c'est un passage très très complexe, très difficile. On expliquait lundi soir dans les commentaires de Riyad al-Salihin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagne un mayet, hein, une personne qui devait être enterrée, il est avec les sahaba. Sahaba, on parle de compagnons. D'accord? Et quelques instants après l'enterrement, le prophète alayhi salatu wa sallam reste près de la tombe. C'est une situation que nous avons tous déjà vécue. Enterrer soit quelqu'un de la famille, soit un ami, soit quelqu'un qui prie dans la mosquée ou un voisin. Et on voit que après l'enterrement, qu'est-ce qui se passe en général? Les gens s'en vont. Les gens rentrent chez eux. Le prophète alayhi salatu wa sallam est resté un instant et il a demandé aux compagnons qui étaient avec lui: ادعوا لأخيكم بالثبات فإنه الآن يسأل. Invoquez Allah maintenant, tout de suite, la fête dua, qu'Allah lui accorde al-thabat, la fermeté dans les réponses, parce que فإنه الآن يسأل. Le prophète savait que au moment où il formulait cette phrase, les anges étaient arrivés. Les anges, les deux anges que nous allons tous rencontrer un jour dans la tombe, que nous quittons ce monde de mort, comme ils disent, naturel, ou maladie, ou qu'Allah nous protège, accident, ou même on meurt noyé, ou quelle que soit la façon de mourir, même si on est désintégré. Il y a des élèves qui posent cette question, mais peut-être pour éviter les problèmes avec les anges, si on se fait brûler, et ainsi de suite, ou alors si quelqu'un... quelle que soit la façon de mourir, il y a ce marhala. Et les enfants, mashallah, parfois ils vous posent des cols, c'est des questions. Ils ont dit que oui, mais si on est mangé par un animal et qu'il y a des petits morceaux de nous partout et que c'est évacué dans la nature, ou alors on meurt dans un crash d'avion, il n'y a plus d'Ibrahim, il n'y a plus d'Abdallah, il n'y a plus de machin. Donc les anges, ils vont s'ennuyer, ils disent, vous savez, mahmala, c'est parti. Non, ça c'est un marhala. Ça, ce sont des étapes que nous voyons pas. Il y a l'étape, le monde avant Al-Marwah, le monde avant que nous soyons dans ce monde. Il y a la période où on est, où chaque personne est un fœtus de le ventre de la maman. Il y a ce dunya avec les étapes, l'enfance, l'adolescence, et ensuite quand on est jeune, pleine possession de sa force. Ghoula, ensuite, quand on devient âgé, il y a la mort. Il y a donc cette étape sous la terre, dans la tombe, et ensuite il y a l'étape de l'au-delà. Quelle que soit notre situation, l'homme va connaître ces étapes. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam donc a dit aux sahaba, demandez doua, parce que à ce moment-là, les anges sont en train de lui poser les questions. En commentaire, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent, les muhaddithin? Vous voyez que la personne qui est enterrée, ce n'est pas n'importe qui, c'est un compagnon du prophète, un sahaba. Et quelles sont les trois questions qui sont posées sous terre? Ibrahim, man, en français, qui est ton Dieu? Si on pose la question à n'importe quel enfant, il va dire quoi? Oui. La réponse.
Allah.
Deuxième question. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 15 points. Oui. Ça fait 20 sur 20, mashallah. C'est des questions faciles. Un enfant de quel âge tu as? 5 ans? 6 ans. Un enfant de 6 ans peut répondre. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la peine de demander doua pour ce sahaba et de dire aux autres compagnons, faites doua pour lui? Alors que ce sont des questions d'une grande simplicité. Parce que lorsque le mu'min, lorsque l'être humain, sans préciser le mu'min, lorsque l'être humain passe dans le monde, dans l'autre monde, le monde parallèle, qui est le monde de l'au-delà, ce n'est plus les apparences qui comptent, ni ce qu'on a mémorisé, ni les traditions, c'est ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. C'est ce qu'il y a réellement, c'est la réalité du iman qui va apparaître. Il n'y a plus d'hypocrisie dans la tombe. Il n'y a plus de faire semblant, il n'y a plus d'héritage culturel ou autre chose. C'est vraiment le tawhid, l'unicité d'Allah qui a dans le cœur, l'amour pour Allah, l'amour pour son prophète, la crainte d'Allah. Ce sont ces valeurs-là qui sont mises en avant et qui nous permettront, inshallah, de répondre facilement aux questions dans la tombe. Donc, n'en parlons plus pour nous. On se doit de faire dua et de faire des soucis à propos de cette étape qui sera l'étape après la mort. Donc on revient, on se rattache un petit peu au verset. Fa'idha ja'at at-tammah al-kubra, lorsque donc Allah Rabbul Izza donnera l'ange Israfil de tout détruire, et à ce moment-là, là on parle du passage dans l'autre monde, et à cet instant, on reçoit les livrets de compte. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Sa'a, je sais pas comment ils ont traduit sa'a. À quoi il s'était forcé? Il y aurait eu d'autres termes pour traduire sa'a. Vous savez, quand on fait le safa marwa, ça s'appelle comment encore ça?
Sa'i.
On dit également le sa'i. entre le Safa et Marwa, quand on fait le parcours, on appelle Sa'i. Le Sa'i, c'est un parcours qu'on fait. C'est-à-dire, de ce dunya, c'est un parcours. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point, entre le point de départ et le point d'arrivée, il peut y avoir 55 ans, entre l'âge de Balir 15 ans jusqu'à ce qu'on meure 80 ans. Il peut y avoir 25 ans, il peut y avoir 15 ans, 10 ans, Allah seul le sait. Mais dans ce Sa'i, dans ce passage entre un point de départ et un point d'arrivée, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a une orientation à donner. Et cette orientation-là, on va voir si on a le temps, avec la description de ceux qui vont de le Jahannam, et ils ont deux points communs, et ceux qui vont de le Jannah, et ils ont deux points communs, qu'on retrouvera dans l'ensemble des croyants, toute époque confondue, ou alors dans l'ensemble des pécheurs en Dieu aussi, ou des personnes qui n'ont pas la foi, toute époque confondue. Ça, on verra dans quelques instants, Inch'Allah. Hada. Non, on ne va pas trop insister sur la remise des livrets d'action, comme ce n'est pas directement cité de le verset. L'objectif, normalement, c'est de terminer à Nazi'an ce soir, Inch'Allah. Bon, on essaie d'avancer. Alors, donc là, on parle de l'homme qui voit maintenant ses actions par le biais du livret de compte. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment précis, chaque personne ressuscitée sait exactement quelle va être sa situation lorsqu'il sera invité près du tribunal d'Allah Azza wa Jal pour rendre des comptes. Parce que là, il a déjà l'écrit, l'intégralité de son sa'i, de son parcours dans ce monde. Et à ce moment, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, il y aura une étape, certainement l'étape la plus difficile, une étape insoutenable de la résurrection. Parce que l'au-delà, c'est plusieurs étapes. Et là, on parle de la première étape de la résurrection. Une des situations les plus difficiles de cette étape, c'est la présentation du Jahannam auprès de la création d'Allah Azza wa Jal. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Il y a pas mal de commentaires sur ce verset. Nous, on va les simplifier le plus possible. Les ulama, rahimahumullah, expliquent, les ulama aqidah expliquent à un moment donné, le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal va ordonner à l'enfer de se présenter à la création. Et dans certains chapitres du Coran, les noms de surat ne me reviennent pas, on parle de Zafir. Zafir, c'est quoi? C'est les souffles du Jahannam, l'expiration du Jahannam. C'est le jour de Qiyama, l'enfer va expirer plusieurs fois. Si je ne me trompe pas, c'est soit trois fois ou alors quatre fois. Et à chaque fois que l'enfer va expirer, on pourrait peut-être comparer une marmite, une cocotte, où à un moment donné, il y a une pression excessive, et il y a donc cette pression qui sort, l'enfer va expirer. Ça, c'est une image, c'est moi qui donne. Lorsque l'enfer va expirer, ça va être quelque chose d'effroyable pour l'ensemble de la création. Ibn al-Izz al-Hanafi, d'autres savants qui ont écrit des ouvrages machin, intéressants sur la description de l'au-delà, ils expliquent que le Jahannam va se présenter au burrizatil jahim ou liman yara, et lorsque l'enfer se présente, il sera attaché avec 70 000 chaînes. Salasil. Il y aura 70 000 chaînes qui vont retenir le Jahannam. Et chaque silsila, chaque chaîne du Jahannam sera agrippée, tenue fermement par 70 000 malaïka. Imaginez le nombre d'anges. Si vous êtes fort en calcul mental, 70 000 fois 70 000, voyez le nombre d'anges de malaïka qui sont chargés de contenir le Jahannam. Parce que l'enfer va sortir un petit peu de l'emplacement qui lui est réservé dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est infini. C'est infini par rapport au temps et par rapport à l'espace aussi. L'enfer, c'est comme si qu'il va être présenté à la création, mais l'enfer va être agrippé pour que l'enfer n'envahisse pas la terre du Mahshar, parce que ce n'est pas le but. Et il va expirer une fois, deux fois, trois fois, si je ne me trompe pas, c'est à la troisième ou la quatrième fois. Il dit que les anges vont être tellement, entre guillemets, malmenés par la force, la puissance du Jahannam, qu'à un moment donné, ils vont lâcher prise. Et dans certaines sources, ça c'est à vérifier l'authenticité, il est dit que même les Anbiya alayhim as-salatu was-salam vont demander protection à Allah contre le Jahannam. Ibn al-Izz al-Hanafi, ou alors un autre, Samarqandi, avait une description magnifique, il avait dit que « وَيَنْسَى عِيسَى أُمَّهُ مَرْيَمُ وَيَنْسَى إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ. » Le prophète Ibrahim, qui aimait tellement son fils Ismaïl, à ce moment-là, lorsqu'il va voir le Jahannam, il va oublier son fils. Il va demander à Allah, nafsi, nafsi, la protection. Lorsque Isa, alayhi salam, va voir le Jahannam qui se présente à la création, il va oublier sa maman, sa mère Isa, alayhi salam, pour penser uniquement à lui. Il dit que certains ambiyas vont même tomber à genoux pour implorer Allah la protection contre eux, contre le Jahannam. Et en commentaire, les savants disent que tout ça, ce sont des rappels qui interpellent le ghaib, la foi en l'invisible, des arguments contre des gens qui ne croient pas à la résurrection, donc qui ne croient pas à l'au-delà, donc qui ne croient pas au Jahannam, ni au paradis, ni à l'enfer. Et qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ils le verront. Pareil pour Faïda Ja'atit Tammatul Kubra, qu'ils croient à la fin du monde ou qu'ils n'acceptent pas de croire, en tout état de cause, la fin du monde aura lieu et tout ce qui existe sera détruit. Allah Rabbul Izza nous invite vers la foi, nous donne la possibilité de croire. L'homme choisit, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme choisit est-ce qu'il croit ou il ne croit pas, mais quelle que soit sa décision, les promesses d'Allah sont haq, vont se concrétiser. Vous savez, qu'est-ce qui fait que l'homme, là on va revenir vers le cas des croyants pour être plus précis, qu'est-ce qui fait que beaucoup de musulmans reste dans le péché matin et soir? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne voit aucun mal à pratiquer, on va dire, une mauvaise action, à prolonger, à rester, à garder de mauvaises habitudes jusqu'à en devenir fasiq, un pécheur endurci? La grosse problématique, c'est que la foi en l'au-delà ne s'est pas vraiment installée dans son cœur. Si l'homme, si le mu'min connaissait réellement, étudiait comme il le fallait, comme il se doit pour chaque croyant, les réalités, les descriptions du akhirah, de l'au-delà, jamais une personne ne persisterait dans un péché. Les seuls péchés qu'on ferait, ce serait par oubli, par inadvertance. Et là, on demanderait tout de suite pardon à Allah Azza wa Jal, parce qu'on aura cette crainte le jour où on va rencontrer Allah. Et cette personne qui vit avec la crainte de rencontrer Allah Azza wa Jal, ce seront les personnes les plus heureuses le jour de Qiyama. Et on va voir, ça fait partie des qualités de ceux qui seront orienté vers le paradis, vers le Jannah. Donc, c'est une étape que les gens vont voir le Jahannam. Maintenant, on va voir les deux catégories, les deux cas de figure, et puis on va s'arrêter là pour rester dans les 40 minutes. Alhamdulillah, il nous reste encore 13 minutes. فَأَمَّا مَنْ طَرَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Donc là, on va voir le cas de la personne, des personnes qui seront dirigées, qui prendront le chemin de l'enfer quand Allah nous protège. Et il y a deux points communs chez ces personnes qu'on retrouve malheureusement dans l'ensemble de la création, de l'ensemble des êtres humains. At-Turyan et le fait de choisir ce dunya. La traduction. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente. Donc il y a deux points qui reviennent. La personne qui a dépassé les limites. At-Turyan, fa'amma mantara. Les Mufassirin, rahimahumullah, expliquent que At-Turyan, c'est dépasser les limites, faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça peut être la personne qui n'adore pas Allah, ou alors qui ne consacre pas sa vie à l'adoration d'Allah, alors qu'Allah, Rabbul Izzah, dit bien le Coran, « Ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun ». C'est-à-dire que la personne qui décide de donner une autre orientation à sa vie que d'adorer Allah, c'est une personne qui a dépassé les limites. C'est une personne qui n'accomplit pas la mission pour laquelle elle a été créée, qui ne respecte pas le but de sa création. Celui qui se détourne de l'adoration d'Allah. Ça, c'est un premier point. فَأَمَّا مَنْ طَرَى. Et le deuxième point, et ça, c'est plus inquiétant, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Et qui donne préférence à la vie de ce monde. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que dans ce sa'i, dans ce parcours entre le moment où on est baligh jusqu'à la mort, on a des choix à faire. C'est un parcours, on a des décisions à prendre. Et au moment où on a des décisions à prendre, lorsqu'on est dans ces carrefours où on a un choix à faire, celui qui choisit les plaisirs de ce monde en mettant de côté les ordres d'Allah et en oubliant les interdits d'Allah Azza wa Jal, cette personne est en train de s'enfoncer, cette personne est en train de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. C'est beaucoup plus grave que l'accomplissement d'un péché par inadvertance. Parce que quand on a le choix, est-ce que j'accepte ce haram ou je le refuse? Je vous donne un exemple. que personne ne se sente visé. On a des problèmes ailleurs, quelqu'un parlait de Zaman, la personne se sentait visée, il pensait qu'on parlait de lui, parce qu'apparemment... Hein. Donc, les exemples, c'est général. D'accord ? Je suis un jeune homme de 15 ans. C'est comme si j'ai 15 ans aussi, non ? D'accord, on va dire lui, mais pas le choix. J'ai 15 ans, je suis en seconde. Je viens d'arriver au lycée, et donc, quand on arrive au lycée, on passe du collège au lycée, c'est un autre monde, les ailes poussent encore plus, on se sent vraiment... quelqu'un de... on se sent exceptionnel, d'accord ? Et je fais la rencontre d'une belle jeune fille, pas une princesse, mais avec le maquillage et tout ce qui vient avec, on dira qu'elle est belle, d'accord ? Mais si elle prend une douche, c'est un problème. S'il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de mastic, il n'y a plus de... ça, isolant et tout, là ça pose souci. Donc, je rencontre une belle jeune fille qui me fait des avances. Très simple, un cas de figure que tout le jeune rencontre. Alors, j'ai le choix. Soit je suis mon hawa, je suis mes pulsions, parce que je suis dans la phase de l'adolescence, j'ai des besoins. Également, je vais porter attention au regard de mes amis, parce qu'on est dans une phase où on a besoin d'exister, de prouver qu'on est là, qu'on assure, qu'on est dans le coup, qu'on est in, qu'on n'est pas out. Donc, il ne faut pas rebrousser chemin quand on a la possibilité d'avancer. Ça, c'est une réalité de l'adolescence. Ou alors, je retourne vers ma foi et je me dis qu'il y a une différence entre moi et mon ami qui n'a pas iman. C'est dans mon cœur, j'ai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lui, il n'a pas ça dans son cœur. Et quand j'ai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans mon cœur, c'est pas uniquement j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. C'est j'atteste et je l'adore, ce Seigneur. Ma vie, elle est pour lui. Ma vie, elle ne m'appartient pas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ma vie wa mamati, ma mort lillahi rabbil alamin. Tout appartient à Allah. Je me rappelle que j'ai été créé par Allah, j'appartiens à Allah et je retourne auprès d'Allah. Tout ça, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pas juste une attestation. J'atteste que, et puis je vis comme tout le monde, comme ceux qui n'ont pas la foi. Non. Al-Iman, c'est i'tiqad. Bil qalb, croyance. Qaul bil lisan, il faut le dire et le répéter. Wa amalun bil jawarih, et les actions qu'on accomplit. S'il n'y a pas d'action, la foi n'a pas de réalité. Donc, le deuxième cas de figure, c'est celui qui se souvient de sa foi de mu'min, de croyant, et qui se souvient en permanence de ce retour auprès d'Allah Azza wa Jal, et qui donc refuse. Il dit non. Pas parce que la personne ne lui plaît pas, pas parce qu'aucune circonstance extérieure, uniquement par amour et par crainte d'Allah, par reconnaissance envers Allah qui lui a donné la foi. Allah m'a donné iman, comment est-ce que je peux lui désobéir délibérément, volontairement, faire le choix de lui désobéir. Cette personne qui fait le bon choix, mashallah, c'est une décision qui est tellement aimé, tellement apprécié par Allah Azza wa Jal, que uniquement par cette décision, alors que je n'ai que 15 ans, uniquement par ce choix, je peux déjà réserver ma place complétée sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyam. Ça, c'est ajib, ça. Cette place, elle n'est réservée qu'à 7 catégories de personnes. Et parmi ces 7 catégories de personnes, رَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَتٌ, un homme qui reçoit des avances d'une femme qui est belle et qui appartient à la haute société et qui refuse, inni akhafullah rabbal alamin, je refuse parce que j'ai la crainte d'Allah, mon Seigneur, le Seigneur des mondes. Et en commentaire, les savants disent que c'est pas parce que, les savants disent, s'il reçoit des avances, c'est pas parce qu'il a donné de l'argent, non, c'est parce que lui-même il est beau, lui-même il est jeune, il est attirant, ce qui fait qu'une femme de ce rang de la société qui est belle elle-même, elle est séduite par cette personne. C'est-à-dire que les deux, ils ont des qualités communes en termes de jeunesse, de beauté, de fraîcheur physique. On est entièrement d'accord. Et que malgré les atouts physiques qu'il a et malgré la beauté de la personne qui se présente à lui, il dit non par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah Rabbul Izzah est tellement content, tellement satisfait du choix de ce serviteur, qu'Allah Azza wa Jal lui promet une place sous l'ombre de son trône le jour de Qiyam. Et lorsqu'on étudie, lorsqu'on analyse les étapes qui sont terribles, plus difficiles les unes que les autres, le jour de Qiyam, et qu'on se dit qu'on a une possibilité d'échapper à tout ça, c'est d'être abrité par le Seigneur des mondes, d'être sous l'ombre de son arche, le jour des comptes, ben, obtenir l'ombre du arche d'Allah, ça a un prix. Mais Allah ne demande pas des choses impossibles à faire. Allah ne demande pas à l'être humain d'arrêter complètement, pas de vie familiale, pas de vie professionnelle, pas de loisirs, pas de plaisir. On jeûne toute l'année, on prie toute la nuit. On ne se marie pas, on donne tout ce qu'on a comme bien. On reste avec une paire d'ihram depuis qu'on est banni jusqu'à la mort. On mange des dattes, on boit de l'eau, on reste comme ça dans la masjid. La wallah. Jamais Allah nous a demandé des choses aussi contraignantes, aussi difficiles. Bien au contraire, ça me dit la rahbaniyata fid din. Il n'y a pas d'ascétisme de ce sens-là dans la religion. Le mu'min, il vit dans la société, il se marie, il mange, il boit, il dort, il profite de la vie, mais il fait ses prières, il jeûne, il obéit à Allah, il baisse son regard, il contrôle ce qu'il regarde, il contrôle ce qu'il écoute, il contrôle son cœur, il s'habille de façon pudique, il fait en sorte que son épouse, sa femme, sa fille et ses enfants restent dans le droit chemin et aient un comportement de croyant, s'habille de façon correcte. Qu'Allah Rabbul Izzah soit satisfait d'eux. Ce sont là les choix qu'Allah, les décisions qu'Allah attend de nous. Et que quand on est tenté par le diable, on adopte la position de notre prophète, Yusuf alayhi salam, qui était un jeune homme d'une beauté impressionnante, qui reçoit les avances d'une princesse et qui refuse par amour et par crainte d'Allah. Ce jeune qui refuse cette avance par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal, a la garantie d'avoir une place au nom du trône d'Allah Rabbul Izzah le jour de Qiyamah. Parce que ce choix-là, il est aimé par Allah. Autant ce choix est aimé et apprécié par Allah, autant la mauvaise décision est détestée par Allah. Celui qui a la possibilité de désobéir à Allah et qui cogite, il se dit, il pèse le pour et le contre. Il n'y a pas de pour, mais qui analyse, qui évalue les conséquences du mauvais choix, mais malgré ça, il prend la décision d'accomplir le zina. Il prend la décision, par exemple, d'emprunter l'argent avec intérêt de façon haram. Il prend la décision de faire ce qui est interdit. C'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'Allah volontairement. Il est en train de s'éloigner d'Allah et c'est très grave. Parce qu'à un moment donné, les cœurs deviennent durs, les cœurs deviennent imperméables et plus rien ne pénètre ces cœurs. Donc il faut faire extrêmement attention quand on a le choix entre le bien et le mal, toujours choisir, toujours prendre les décisions qui seront conformes aux limites qu'Allah Rabbul Izzah nous a fixées. Et ça, c'est une qualité des croyants qu'on va voir, mais malheureusement, c'est un défaut qu'on retrouve chez ceux qui sont orientés vers le Jahannam, la désobéissance, le fait de ne pas adorer Allah ou de le désobéir délibérément, de ne pas consacrer sa vie à l'adoration d'Allah, à Maman Tara, qui n'adore pas Allah, ou à Athara al-Hayat al-Dunya, et qui donc a donné préférence à la vie de ce Dunya. Le Mufassir, il va même plus loin. On avait donné cet exemple juste en clôture la dernière fois. Il dit que Rajulun, Iza, Azan al-Fajr, Athara al-Nawm al-Salah. Une personne qui entend le Azan de la prière de Fajr, on n'entend pas de nos jours, mais on va dire que le réveil qui sonne, la Salah, ici, elle est à quelle heure? 5:30? 5:15? Adjib. Non, on va tromper. Alors, ah bon, quand même. La Salah, elle est à 5h45. Dors bien ici, mashallah. La Salah, elle est à 5h45. Mon réveil sonne à 5h15. On va être gentil, hein? C'est correct. On aurait dû dire 4h, Qiyamulail. On va dire même 5h30, Yallah, parce que j'habite pas loin. 5h30, le temps d'aller aux toilettes, faire les ablutions, se changer, venir à la mosquée et faire deux rakat avant la prière du Fajr. Mon réveil sonne à 5h30. Et là, je réfléchis. Je vais Fajr ou bien je redors, je suis fatigué. Et ça, c'est un carrefour. Ça, c'est un moment critique. Et si j'ai choisi de me retourner, de rabattre la couverture, de profiter parce qu'il y a un plaisir dedans, oui ou non? Vous savez, ce plaisir, quand vous êtes réveillé un instant et de raccrocher avec le sommeil, il y a un madja dedans, c'est ajib, excusez-moi de le dire. Il y a un plaisir dedans, mais c'est un plaisir satanique. C'est shaitan, tout le monde sourit parce que tout le monde a expérimenté. Qu'Allah vous guide tous, nous guide tous, inshallah. C'est shaitan, alayhi la'natullah, qui embellit les péchés. Shaitan qui embellit les péchés. Et après ce plaisir éphémère où on décide de redormir un instant et quand on se réveille, aïe, il est 6h30, le soleil est levé, on a raté Fajr, les remords. Il y a les, Inch'Allah, il faut qu'il y ait des remords. S'il n'y a pas de remords, c'est-à-dire que encore plus grave là, d'accord? Les remords, et on se rend compte que comment est-ce que j'ai pu prendre cette décision? Ça, et en commentaire, enfin, c'est dit que cette personne qui, au moment de faire la prière de Fajr, décide de retourner à son lit de dormir, c'est quelqu'un qui a choisi le dunya sur le din. Il fait partie de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que si une fois ça arrive, on ira dans le jahannam. Mais si quelqu'un prend cette mauvaise habitude, à chaque fois qu'il y a un choix entre ordre d'Allah et le nafs, et suivre ses instincts, il suit ses instincts, c'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner. À chaque mauvaise décision, il s'éloigne d'Allah, et il s'éloigne du jannah, et il se rapproche de la colère d'Allah, et il se rapproche du jahannam qu'Allah nous protège. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choix cruciaux, c'est pas entre des péchés kabira comme l'adultère ou autre chose, c'est n'importe quel moment où on choisit entre obéir à Allah ou suivre ses instincts, on doit faire très attention de ne pas suivre son nafs. Parce que ça, c'est un combat de tous les jours. Et celui qui gagne sur son nafs une fois, deux fois, à un moment donné, il aura la maîtrise de soi, de ses pulsions. Et plus on va abandonner le haram pour Allah, plus Allah va nous rapprocher. Mais ça, c'est quelque chose de magnifique. Pour ça, me dit un hadith, « Man taraka shay'an lillah ya'awwadahu Allahu khayran minhu. » Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accordera quelque chose de mieux. C'est quoi le quelque chose de mieux? Certains commentateurs de hadith disent que Allah lui donnera le halawatul iman, la douceur de la foi. C'est quoi la douceur de la foi? C'est, on va dire comme les sahaba, mais presque. Les sahaba, eux, ils avaient la douceur de la foi. Quand ils faisaient deux unités de prière, pour eux, c'était le bonheur total. C'était vraiment une communication avec leur Seigneur. Quand ils faisaient le dhikrullah, ils ressentaient le poids de subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et ça devenait des moments magnifiques. Les moments de jouissance spirituelle pour eux. Alors que nous, notre prière, on sait qu'est-ce qu'elle vaut. On est pressé que ça se termine, on est fatigué. Pendant la salle, on pense à mille et une choses. On a nos projet professionnel, week-end, vacances, on prévoit tout dans la prière, on est pressé que l'imam termine rapidement pour pouvoir rentrer. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas d'épanouissement spirituel de nos prières, ni de notre lecture du Coran, ni de notre dhikrullah, parce qu'on n'a pas goûté la douceur de la foi. Et on a besoin d'avoir ça, ça ne s'achète pas ça. Ça ne s'obtient pas quand je fais des études, pas parce que j'ai un diplôme de hafiz al-Qur'an ou de alim ou de mufti, ce que vous voulez. La douceur de la foi ne dépend pas de votre diplôme, de votre ancienneté dans l'islam, de la religion ou du nom de famille que vous portez. Ça c'est bien une grande famille ou ça c'est bien une petite famille, abadan. C'est quelque chose qu'Allah donne à qui il veut. Et quand une personne prend cette habitude de délaisser le haram pour Allah, c'est-à-dire faire le bon choix, de le carrefour des choix, je suis Allah et son prophète et je délaisse mes pulsions et je me détourne des insufflations du diable. Allah Rabbul Izza est tellement content qu'il te donne un cadeau qui est inestimable, qui ne peut pas s'obtenir que d'une autre façon si ce n'est pas la grâce d'Allah. Que dans ton cœur tu ressens la douceur, le halawa, la douceur de la foi. Pour ça mes chers frères, on doit être extrêmement vigilant, extrêmement attentif. Le croyant ne lève pas le pied une seconde. Vous avez vu, expliquer ça dans Riyad al-Salihin. Vous savez, idéalement, il faudrait expliquer en même temps tafsir et hadith. Avoir les deux en même temps. Parce que, subhanallah, ça se complète. Dans le hadith qu'on avait vu à Saint-Clotilde il y a deux semaines, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah en toutes circonstances. Cette phrase-là, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on baisse de vigilance en termes de piété. Il n'y a pas Ramadan et après Ramadan. Non. Il y a peut-être après Ramadan, je deviens meilleur. Mais pas qu'après le ramadan, je retourne en boîte, je recommence à boire, je recommence à fumer avec mes amis, je recommence à faire des bêtises. Là, wallah, à aucun moment le croyant ne peut se permettre de baisser la garde. Parce que quand on baisse la garde, qui c'est qui vient? Shaitan, il est là pour ça. Il a fait la promesse d'amener le maximum de personnes avec lui dans le jahannam. Et il veut amener Yahya, Isa, Ishaq, Mohammed, Ibrahim, Ilyas. Il aimerait que ces gens-là soient avec lui dans le jahannam. Et qu'Allah nous protège. Et dans le Jahannam, on avait déjà fait ça de mois de Ramadan, lorsque les gens vont dire que tu nous as égarés, ô Iblis, que tu sois maudit, il va dire que du tout, ce n'était pas moi. Allah vous a montré la vérité. Moi, je vous ai proposé autre chose. Wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amr, inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait la promesse de la vérité. Ayez la foi, faites de bonnes actions, il est au niveau du haram. Allah sera satisfait de vous, vous accordera le Jannah. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqqi wa wa'adtukum. Moi je vous ai fait d'autres promesses. L'argent, les femmes, les plaisirs éphémères de ce monde. Vous m'avez écouté. Et Shaitan va dire que je ne vous ai pas obligé de m'écouter, je ne vous ai pas forcé. C'est vous qui avez pris la décision. Maintenant, fala talumuni, ne me faites pas de reproches, walumu anfusakum. C'est vous-même qui vous êtes attiré vous-même vers le Jahannam. C'est vous qui avez recherché, c'est vous qui avez choisi le mauvais chemin. Et si vous êtes là, c'est par rapport à vos choix. Tout est une question de choix. On choisit d'obéir à notre Seigneur, on obtient la douceur de la foi. Allah nous guide, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. C'est-à-dire, plus on se rapproche d'Allah, plus on l'obéit, plus on suit ses ordres, plus on s'éloigne de nos pulsions, Allah va nous accepter un pas, deux pas, trois pas, Allah nous amène vers lui. Et c'est un chemin qu'on va tracer jusqu'à notre mort vers Allah Azza wa Jal. Alors que si on prend les mauvaises décisions, on s'éloigne d'Allah jour après jour et on perd la lumière de la foi, on perd l'intérêt même pour les a'mal saliha, l'intérêt pour les bonnes actions qu'Allah nous protège. Wa athar al-hayat, donc cette personne, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Alors l'enfer sera son refuge, cette personne sera orientée vers le Jahannam qu'Allah nous protège. Et l'autre cas de figure, on va garder ça pour la prochaine fois. Oui, on a 45 minutes, dépassé de 5 minutes. On verra ça la prochaine fois. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Ça c'est, inshallah, ce sera moi, ce sera vous, ce sera chaque personne présente, chaque croyant. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, wa nahan nafsa 'anil hawa. Exactement le contraire. Et préserver son âme de la passion, fa innal jannata, le paradis sera alors son refuge. C'est-à-dire que celui qui contrôlait son nafs, l'autre côté, qu'est-ce qu'il faisait? Il obéissait à ses pulsions. L'autre personne, le mu'min qui orientait vers le jannah, vers le paradis, il maîtrisait son nafs. Quand il voulait faire le haram, il arrivait à redresser la barre complètement et à revenir vers le Coran et la sunnah et à s'éloigner de ses pulsions. Et une qualité qui était propre, omniprésente, intrinsèque chez ce croyant, celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, on a dit que ça, c'est l'état de vigilance du croyant qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire que jamais on doit baisser la garde. Jamais on doit se dire que là, on est en vacances ou là, c'est possible, on peut faire telle chose. Il y avait une personne, un professeur d'école, qui demandait à ses élèves musulmanes, qui ne savent pas que ce prof-là est musulman. Une personne qui ne porte pas un nom de musulman. Donc, mais les gens, ils élèvent pas. Ils ont posé une question à des filles musulmanes, hein, d'accord, à propos de la façon de s'habiller. Ça, c'est quelque chose que... La pudeur, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de catastrophique. Et les premiers à répondre le jour de Qiyam seront les parents. Un papa qui laisse sa fille sortir pour aller au collège, au lycée, une tenue indécente, il aura hissab le jour de Qiyam. Qu'Allah nous protège. Il dit que ce professeur a demandé innocemment à ces jeunes filles qui s'habillaient vraiment d'une façon indécente. Il dit, mais dans votre religion, est-ce que c'est autorisé cette façon de s'habiller ou bien c'est interdit? Il me semble avoir entendu que quand on est musulmane, on doit se couvrir le mieux possible. Ces filles, elles ont répondu que oui, c'est vrai, mais on est encore jeune. Là, pour l'instant, c'est pas grave, on est encore jeune. Ça, c'est piège de Shaitan. Quand Shaitan essaie de vous convaincre que tu es encore jeune, tu sais pourquoi, vous savez pourquoi est-ce que Shaitan travaille le dossier des jeunes? Tout le monde travaille chez les jeunes. Le conseil général vise les jeunes. Le conseil régional vise les jeunes. Et la chambre de commerce, tout le monde dit les jeunes. On sait que la jeunesse est porteur d'espoir. Shaitan, il vise les jeunes, mais il a autre chose en tête, lui. Il les intéresse. C'est pas votre insertion. C'est pas son problème, ça. Shaitan sait pertinemment que tant que tu es jeune, tu peux obtenir ta place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète dit que parmi ces gens qui seront invités sous l'ombre du trône d'Allah, Shab Nasha'afi, ta'atillah, un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Ce jeune qui, il peut vivre normalement, il peut avoir un travail, il peut aller dans les établissements scolaires et tout, mais il fait ses prières, il respecte ses parents, il contrôle son regard, il regarde pas n'importe quoi, il contrôle ce qu'il écoute. C'est-à-dire qu'il vit avec la crainte d'Allah dans son cœur, sans pour autant que cette crainte d'Allah ne l'empêche d'être un jeune comme tout le monde. Il a des amis, il sort, il rentre, il n'y a pas de souci. S'il veut aller jouer avec ses amis, je fais un match, il y va. Mais il a cette crainte d'Allah dans son cœur, ce qui fait qu'il ne fera jamais un pas vers le haram. Le jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah aura sa place sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jalla, de Qiyama. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va échapper complètement à Shaitan. Shaitan n'aura aucune emprise sur lui dans le delà. Et Shaitan ne veut pas de ça. C'est pour ça que Shaitan va faire un effort maximum pour lui détourner un jeune du droit chemin. C'est une étape de gagner. Parce que même si un jour il va demander Tawba, à l'âge de 40 ans, ou après il va prendre conscience de ses erreurs, il va retourner vers la religion, son Tawba sera accepté par Allah, sans le moindre doute, Inch'Allah. Mais il ne pourra plus obtenir cette place par rapport à la jeunesse. Parce que cette étape est terminée. Quand la jeunesse est terminée, il ne revient pas. Il y a ce proverbe, la jeunesse, il ne revient pas. Mais là, c'est dans le sens de Hassanat. Quand tu as passé cette étape où tu pouvais avoir l'ombre, une place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, et tu ne l'as pas fait quand tu étais jeune, ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus rattraper. On peut revenir vers Allah sans le moindre doute, mais ça c'est quelque chose, ce sont des années en or qu'on se doit de profiter, de prendre pleinement conscience. Donc on verra la prochaine fois. Celui qui est orienté vers le Jannah, Allahumma ja'alna minhum, c'est quelqu'un qui contrôlait ses passions et qui avait toujours cette crainte, comment on dit ça? Alors, la traduction, parce que ces versets du Coran, on ne peut pas dire bil ma'ana. Et pour celui, verset 40, qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur. C'est-à-dire, à chaque instant de sa vie, il pense au mahshar. Il pense au hisab. Ça, c'est une qualité des croyants. Parce que comme on l'avait dit maintes et maintes fois, chaque fois qu'on parle de la foi en Allah, il y a la foi sur le jugement dernier. Walakin al-birra man amana billahi wal yawm al-akhir. Celui qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement dernier. Et le mu'min doit être capable de se projeter dans l'au-delà chaque fois. Quand on prie, on est conscient qu'on est devant Allah. Mais quand on vit dans notre vie tous les jours, on doit penser en permanence au moment où Allah va nous appeler pour répondre de nos actions, pour comparaître et que nos actions soient pesées dans le mizan de la balance au jour de Qiyam. Quand on a une décision à prendre et qu'on est tenté par le péché, je dois me rappeler le jour où je vais être appelé par mon nom auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal pour répondre de mes actions. Celui qui a cette réaction, qui se projette vers le Akhira, assurément cette personne ne fera pas le mauvais choix. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Il nous accorde donc les qualités de ces croyants qui seront orientés vers le Jannah, vers le paradis. Allahumma ja'alna minhum. Inch'Allah, la prochaine fois, donc vendredi prochain, oui, s'il n'y a pas de réunion, je réfléchis normalement, non. Vendredi prochain, on fera donc le dernier cours sur An-Nazi'at. On va compléter et inshallah dans 2 semaines on pourra enfin commencer Amma Yatasa'alun avec pour objectif de compléter le juz Amma Yatasa'alun avant, au moins avant le mois de Ramadan. On avait commencé Al-Fatiha An-Nas en 2003, donc inshallah si là on est en 2015, si on peut compléter Amma Yatasa'alun avant le mois de Ramadan, c'est une faveur, une ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah donne la possibilité de comprendre que chaque parole qu'on a prononcée pénètre nos cœurs, moi en premier, et chaque personne de cette assemblée, et qu'on puisse transformer ces paroles en résolution ferme et en amal, en action. Qu'Allah nous accepte. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum khair.